Un, deux. Voilà. Être en Christ. Je me réjouis parce que ce matin, les chants ont été un tremplin pour ce que vous allez entendre. Être en Christ. Vous savez, quand nous sommes venus à Jésus, qu'il a pardonné nos péchés, nous a réconciliés avec Dieu par son sang, il nous appelle à vivre en Christ, en lui. Nous sommes en Christ par notre union avec lui. Dans la Bible, il existe de nombreuses évidences qui montrent que nous sommes en Christ. Mais ce matin, je veux vous donner trois évidences nettes des Écritures qui prouvent si nous sommes en Christ ou pas. Je voudrais faire cette lecture avec vous. Première épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, passage que nous connaissons tous très bien. Verset 3, Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Dans ces 13 versets que nous venons de lire, à 10 reprises, il est dit en Christ, en lui ou en son Fils bien-aimé. Ce n'est pas pour rien. Nous sommes en Christ. De par notre union avec lui, Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour découvrir dans la parole de Dieu les innombrables avantages d'être en Christ Jésus. Le Saint-Esprit nous a révélé la puissante signification de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et je dirais les indétrônables vérités qui permettent de caler nos vies dans le Seigneur. Comme par exemple le fait qu'étant Christ est le seul fondement sur lequel la vraie sainteté et la justice peuvent être établies. Ce n'est pas la peine de dire Amen, on s'habitue à ces choses-là, ça va très bien. Amen. Sans ce fondement, nous nous appuierons que sur notre chair pour essayer de produire une forme de sainteté en nous-mêmes. Mais la vraie sainteté est obtenu seulement au travers de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Justement, parce qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Ça veut dire que seule la grâce de Dieu nous enseigne ou peut nous enseigner le genre de théologie qui permet d'être en Christ. Amen. Et je dirais que c'est seulement quand nous comprenons ces bénédictions que nous reposerons sur un fondement solide. Amen. Savons-nous vraiment ce que veut dire être en Christ? Dieu parla à Ésaïe à propos d'un certain serviteur qui réjouissait son cœur. Ésaïe 42, verset 1, la seconde. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Qui est celui que Dieu soutient et élève tout en gardant ses pas? Qui est son élu, celui en qui il prend plaisir? Nous trouvons la réponse dans l'évangile de Matthieu. Dès que Jésus a été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le mot hébreu pour « mis toute mon affection » signifie ici « se réjouir ». Dieu disait en d'autres mots, « Mon âme se réjouit à mon Fils Jésus. » Et tout au long de l'Ancien Testament, un nombre indéterminé d'animaux furent offerts en sacrifice à l'Éternel. Des rivières de sang coulèrent pendant des siècles. Cependant, la Bible dit qu'aucun de ces sacrifices n'apporta du plaisir à l'Éternel. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des veaux ôte le péché. Hébreux 10 au verset 4, « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Au verset suivant, nous avons ces merveilleuses paroles de Jésus. « Alors j'ai dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Christ est venu sur terre pour faire ce qu'aucun sacrifice animal n'a pu faire. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et Dieu a préparé un corps physique pour Christ ici sur terre, un corps qui pourvoirait le sacrifice final et parfait. En résumé, Dieu s'est abaissé lui-même, il a pris notre nature, il a abandonné les richesses des cieux pour se faire pauvre pour nous, donnant sa vie pour nous racheter. Le plan de Dieu pour le salut de l'humanité était très simple. Il a dit, je vais envoyer mon propre fils comme libérateur, et quand il sera mort, ressuscité, remonté au ciel et assis à ma droite, je ne reconnaîtrai que lui seul. Et à la lumière de ces faits, on peut comprendre que Jésus est de l'Esprit de Dieu et de l'essence même de Dieu. Dieu n'acceptera jamais, jamais une offrande de la chair humaine parce que lui seul est saint. Même si cette offrande paraît bonne, il ne reconnaîtra que Christ seul, le serviteur qu'il a parfaitement réjoui et qui lui est agréable. Alors le Seigneur a dit, « Mon fils sera le seul agneau sacrifié et il rassemblera tous ceux qui ont été éloignés de moi et lui seul pourra réconcilier l'homme à Dieu par son sang. » Et c'est comme ça que Pierre le rappela aux chrétiens qui, à ce moment-là, étaient en souffrance. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Maintenant, quand Jésus dit « Tu m'as formé un corps », il ne veut pas seulement dire un corps humain, mais également un corps spirituel, et ce corps est constitué de tous ceux qui croient en lui. La Bible précise qu'il n'y a qu'un seul corps, le corps de Christ. En effet, à partir du moment où nous donnons pleinement notre cœur à Jésus, où nous nous repentons de nos péchés et lui accordons toute notre confiance, nous sommes gravés, adoptés, intégrés dans son corps et nous devenons une même plante avec lui. Actuellement, Jésus, le Fils, est assis à la droite du Père, mais il n'est pas vu physiquement dans ce monde. Et le fait est que nous, membres du corps de Christ sur terre, sont les seuls Jésus que ce monde verra. L'Église n'est pas qu'une simple dénomination. Elle n'est pas uniquement une structure organisée. Elle n'est pas simplement une collection de croyants rassemblés autour d'une doctrine. Pas du tout. Au contraire, l'Église, dont il est fait référence dans les Écritures, est un corps de croyants nés de nouveau, qui reconnaissent Jésus comme le premier-né d'une nouvelle humanité. Il est la tête du corps de l'Église. Et tous ceux qui appartiennent au corps de Christ sont soumis à sa souveraineté et ils savent que Dieu n'accepte personne hormis ceux qui sont en Christ. Comment sommes-nous acceptés par Dieu? Ah, voilà une bonne question. Comment sommes-nous acceptés par Dieu? La Bible, John MacArthur nous dit « Il nous a favorisés dans son bien-aimé ». La semeur et la seconde nous disent « Il nous a accordé en son bien-aimé ». Et on pourrait y ajouter, pourquoi pas, la Bible en français courant qui nous dit « Louons Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé ». Et là, quelle que soit la version, on se rend bien compte que le Fils bien-aimé reste l'élément central, incontournable et irremplaçable. On pourrait dire « Amen », mais bon, on s'habitue à ça. Nous sommes acceptés par Dieu uniquement parce que nous sommes en son Fils bien-aimé, qui est en Christ une partie de son corps. Paul n'a pas omis de mentionner cette précision, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et il est extrêmement clair que nous n'avons pas d'autre accès à Dieu que par notre appartenance à Christ. Si vous avez donné pleinement votre cœur à Jésus, vous avez probablement exprimé la même expression qu'Israël au temps où il était obéissant. « Ô Dieu, comment puis-je t'être agréable? Comment puis-je me tenir devant toi avec tous mes échecs et toutes mes fautes? Comment puis-je être accepté par toi, aimé par toi et te réjouir ?» Et Dieu nous répond comme il l'a fait pour Israël. « Je ne veux pas de tes sacrifices ni de tes bonnes œuvres. Je ne reconnais que l'œuvre de mon Fils en qui je me réjouis et que j'agrée. Mais je t'ai choisi comme épouse de mon Fils unique. » En lui, je t'ai choisi avant la fondation du monde pour que tu sois uni à lui. Je t'ai courtisé, convaincu, et à travers mon esprit, je t'ai placé en lui. Maintenant, je te demande, comment pourrais-je ne pas aimer et me réjouir dans l'épouse de mon fils, celle que j'ai moi-même choisie. Je ne peux pas haïr ma propre chair. » Jésus nous l'a dit clairement. Quand nous sommes unis avec lui, quand nous sommes un avec lui, nous savourons le même amour du Père que lui. Dieu se réjouit autant en nous qu'il le fait pour son propre Fils. Il dit « J'aime tous ceux qui sont en mon Fils et tous ceux qui sont en lui sont à moi. » La Bible nous dit aussi que Dieu est notre Père, tout comme il est le Père de Christ. Et Jésus l'a dit ouvertement à ses disciples. Avant son ascension, il leur a dit « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors, quels efforts faisons-nous pour plaire à Dieu? Passons-nous par des périodes où nous sentons que nous nous réjouissons en lui, ou au contraire, connaissons-nous des périodes basses où nous avons placé les sentiments avant les faits? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le plaisir que Dieu prend en nous n'a rien à voir avec nos propres efforts, nos bonnes intentions ou nos bonnes actions. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Cela a à voir avec la foi. Je crois que Dieu veut que nous ayons ce que j'appellerais une foi centrée sur un seul principe, à savoir, si nous désirons nous tenir sains devant Dieu, nous devons venir à lui en Christ, uniquement en lui. L'auteur aux Hébreux était au centre de la pensée lorsqu'il nous prévient contre un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. C'est un résultat de la foi. Quand nous nous éloignons de la doctrine fondamentale qui consiste à être accepté par Dieu par notre appartenance à Christ, si nous refusons cette doctrine, nous nous éloignons du Seigneur et nous retournons à la loi de la chair et les liens spirituels qui en découlent. La meilleure manière d'amener nos efforts chancelants, nos âmes troublées vers la paix, est de se souvenir vivement que je suis en Christ. En lui, je suis accepté par Dieu. Je lui suis agréable. Il se réjouit en moi. Et peu importe si physiquement ce matin, je me sens un peu patraque. Peu importe ce que je ressens, des émotions ou des sensations de bien-être, la foi est au-dessus de tout ça. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes, ici-bas. Et cet apport de vérité, c'est ma foi qui la communique à mon cœur. Je disais tout à l'heure qu'il existe de nombreuses évidences qui montrent que nous sommes en Christ. Mais ce matin, je veux vous donner trois évidences nettes des Écritures qui prouvent si nous sommes en Christ ou pas. Attachez vos ceintures. Premièrement, nous sommes en Christ si nous sommes continuellement dans le processus du renouvellement. Je m'explique. Ceux qui sont en Christ ne se reposent pas sur l'expérience ponctuelle de la conversion. Au contraire, ils appellent à être constamment changés et renouvelés par le Saint-Esprit. Amen. Leur prière est souvent « Seigneur, ôte de moi tout ce qui ne te ressemble pas. Purifie-moi et change-moi ou transforme-moi à l'image de ton Fils. » Vous savez, de son temps, l'apôtre Paul, qui n'avait pas le Nouveau Testament, avait compris ces choses, puisqu'il dit aux chrétiens, « Né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus. Régénération signifie rendu nouveau ou produisant quelque chose de nouveau. L'apôtre est en train de dire à tous les chrétiens nés de nouveau, le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous, procédant en vous à une transformation. Heureux, amen. Que Dieu soit béni. Voyez, Christ possède le Saint-Esprit sans mesure, et parce que nous sommes une partie de son corps, son Saint-Esprit coule sur chacun d'entre nous, dans chaque jointure et chaque membre. Alors, étant en Christ, nous sommes nourris par son esprit et transformés à l'image de Christ lui-même. Deuxièmement, nous sommes en Christ si nous gouvernons notre vie par les Écritures. Respectons-nous et craignons-nous la parole de Dieu. Nous tenons-nous chaque jour devant le miroir des Écritures pour être changés par elles. La Bible dit « Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. » Et par là, nous savons que nous sommes en lui. La Bible est claire. Nous savons que nous sommes en Christ si nous aimons sa parole et que nous lui obéissons. C'est ainsi que l'amour de Dieu est rendu parfait en nous. Paul écrivait aux Thessaloniciens « Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et qu'elle soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » L'expression « répandre » signifie « ne rencontrer aucune opposition en vous ». C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole et que nous l'écoutons, laissons le Seigneur ou faisons la règle de notre vie et laissons-la nous gouverner. Les chrétiens citent souvent ce verset, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, versets 31 et 32. Mais cette promesse dépend du verset précédent. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » L'expression « si vous demeurez dans ma parole » signifie « si vous vivez par mes commandements et que vous les gardez ». En d'autres mots, « puisque vous êtes en moi, je vous révélerai ma vérité, mais je ne vais pas vous la révéler si vous n'avez pas l'intention de vivre par elle. Vous connaîtrez la vérité une fois que vous vous serez engagé à y obéir. » Amen. Troisièmement, enfin, nous sommes en Christ si notre foi est associée à l'amour. Les Écritures disent, si vous n'avez pas l'amour inconditionnel, vous ne pouvez pas être en Christ. Et oui, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Rien en grec signifie, je ne suis rien en vous, et je ne serai jamais rien. En d'autres mots, sans un amour inconditionnel pour les autres, je ne suis rien et je ne serai jamais rien. D'ailleurs, Jésus parlait de cette vérité capitale quand il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous pouvons être un prédicateur talentueux ou un puissant évangéliste. Nous pouvons guérir les malades par notre foi au nom de Jésus. Nous pouvons déplacer les montagnes en annonçant une seule parole d'autorité. Nous pouvons enseigner la parole de Dieu avec puissance et onction. Si nous n'avons pas d'amour pour les autres, nous sommes rien. L'apôtre Jean nous fait remarquer que si nous possédons ce fruit, nous avons alors la plus nette évidence que Christ demeure en nous. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 9, la semeur. Si quelqu'un prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, est encore présentement dans les ténèbres. C'est clair, net et précis. Est encore présentement dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère, comme c'est le cas pour vous, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Pour terminer, rappelons-nous ces trois évidences. Je sais que je suis en Christ, d'abord parce que je veux être changé, renouvelé et transformé à l'image de Christ. Deuxièmement, je sais que je suis en Christ parce que je tremble à sa parole. Ça s'appelle une sainte crainte de Dieu. De son temps, le psalmiste l'avait compris. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 70, au verset 3. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et finalement, je sais que je suis en Christ parce que j'ai le désir d'aimer sans condition la personne qui m'est le plus proche. Ta femme, ton mari, avons-nous soif d'être renouvelés par le Saint-Esprit, d'être transformés à l'image de Christ lui-même. Pour ce faire, il faut que la parole de Dieu soit notre pain quotidien, la substance même de notre vie. D'où ce modèle de prière que nous connaissons tous par cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À toi de le prendre, de le manger, de t'en nourrir et de vivre de ce pain. Sinon, Jésus n'aurait pas déclaré « Je suis le pain de vie ». Et celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ou encore, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. » C'est pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Paul à écrire aux Galates « Vivez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Je prie que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour découvrir dans la parole de Dieu les innombrables avantages d'être en Christ et nous serons présents au rendez-vous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la nourriture de nos vies, Seigneur, la nourriture de notre foi pour t'élever, pour faire ce que toi tu nous dis de faire. Seigneur, renouvelle-nous encore dans ton esprit, dans ta présence, parce que nous voulons être debout quand tu viendras enlever les tiens. Seigneur, parce que tu viens bientôt. Merci de rafraîchir nos cœurs ce matin. Merci de renouveler tout ce qui vient de toi, Saint-Esprit, et de tout à nouveau les placer dans notre cœur. Seigneur, nous voulons que ta parole, elle t'honore dans nos vies et que ta volonté soit faite dans les moindres détails tous les jours. Jésus, nous te bénissons et nous te remercions encore pour ta parole et la vie que tu as donnée pour qu'aujourd'hui nous vivions. Amen. 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 Nous allons...